VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec au micro. Dans quelques instants, Carrefour Sciences et Santé avec Khalil Gueye. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. L'arrestation d'Emmanuel Karenzi Karake, chef des services du renseignement du Rwanda, samedi dernier, fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Kigali est révolté et demande sa relaxation immédiate. Le général a été interpellé à Londres sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne. Il est accusé de crimes de terrorisme. Salwa Jafari.
À Kigali, la nouvelle est tombée comme un couperet. L'arrestation du général Karake est outrageante. Le gouvernement dénonce ce qu'il appelle une horreur avec toutes les pires théories conspiratrices. Mais la nouvelle n'a pas fait que des mécontents. Écoutez Ignacio Joftis d'Amnesty International.
C'est une bonne nouvelle pour la lutte contre l'impunité dans le cas de cette grande violation des droits humains. Nous espérons que cette personne vienne en Espagne et qu'elle comparaisse devant le tribunal espagnol.
Mais qui est donc Emmanuel Karenzi Karake et comment expliquer sa mauvaise posture ? 54 ans, c'est une personnalité clé du régime rwandais. Souvent surnommé Kaka, il est l'une des figures de l'ancienne rébellion à dominante Tutsi. Dans un acte d'accusation émis le 6 février 2008, la justice espagnole avait demandé l'arrestation de 40 responsables rwandais, dont le général, qui auraient eu connaissance et approuvé le massacre de civils entre 1994 et 1997 dans les villes de Rwengira, Gizei et Siengugu, y compris la mort de 3 travailleurs humanitaires espagnols. La justice espagnole a indiqué ce matin avoir lancé la procédure de demande de sa remise à l'Espagne. L'audience nationale n'était cependant pas en mesure de préciser quand cette instance se prononcerait.
L'ONU a repris ce mardi à Bujumbura sa médiation dans la crise politique burundaise en présence de la société civile, de l'opposition et des chefs religieux du pays, mais en l'absence notable, Jacques Aristide, du camp présidentiel.
Le ministre burundais de l'Intérieur, Edouard Dibumana, censé représenter le gouvernement, était absent d'après l'AFP. Le parti présidentiel, la CNDD-FDD, a clairement dit ne pas vouloir participer, estimant que l'initiative, en pleine campagne à 5 jours des scrutins, visait à perturber les élections. La réunion était placée sous l'égide du nouveau médiateur, le Sénégalais Abdoulaye Batili, représentant de l'ONU en Afrique centrale. L'opposition conteste la tenue des élections législatives et communales prévues le 29 juin et la communauté internationale réclame leur report, estimant les conditions pas propices. Les pourparlers achoppent sur la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat lors de la présidentielle du 15 juillet. Une ONG burundaise affirme qu'au moins 70 personnes ont péri depuis le début de la crise politique fin avril, alors que plus de 100 000 Burundais ont déjà fui vers les pays voisins à cause du climat préélectoral délétère dans leur pays.
Grève des enseignants au Gabon, un mouvement d'avertissement de 3 jours pour faire aboutir leurs revendications salariales selon le quotidien national L'Union. Les enseignants exigent notamment le versement des salaires de mars, avril et mai, ainsi que le paiement de primes. Accident de la circulation dans le nord-ouest de la Centrafrique. 10 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi à Tédoua, non loin de Boire. Au moins 12 blessés, indique la gendarmerie citée par l'AFP. Lionel Zinsou, nouveau Premier ministre du Bénin, veut s'occuper des vrais gens et donner les bons exemples. C'est ce qu'il a déclaré à l'AFP. Le banquier d'affaires franco-béninois, nommé 10 mois avant la fin du mandat du président Tony Boni Yayi, n'a donc qu'un court délai pour réaliser ses objectifs. Nombreux sont ceux qui se demandent s'il a été choisi pour être le dauphin de M. Boni Yayi à la prochaine présidentielle en février 2016. Épidémie de choléra au Soudan du Sud. Au moins 18 personnes sont mortes depuis le début du mois de juin à Djouba, la capitale ravagée depuis un an et demi par une guerre civile. Tel est le bilan annoncé par le ministre sud-soudanais de la Santé. L'épidémie est partie des bases surpeuplées des Nations Unies à Djouba, où se sont réfugiées près de 30 000 personnes, avant de se propager ailleurs, en ville, a indiqué à la presse le ministre, faisant état de 171 cas recensés. Un recruteur du groupe État islamique, soupçonné d'être impliqué dans l'attaque contre le consulat des États-Unis à Benghazi, a été tué dans un raid de l'aviation américaine le 15 juin à Mossoul, dans le nord de l'Irak. C'est ce qu'a annoncé lundi un porte-parole du Pentagone. Le point avec Camille Grosdidier.
Selon le colonel Steve Warren, Ali Oni Al-Khazi était également soupçonné d'être impliqué dans l'attaque du 11 septembre 2012 contre le consulat des États-Unis à Benghazi, en Libye, qui a coûté la vie à 4 Américains, dont l'ambassadeur Christopher Stevens. Sa mort va affaiblir les capacités de l'État islamique à intégrer des djihadistes originaires d'Afrique du Nord sur les fronts irakiens et syriens et élimine un djihadiste ancré de longue date dans le terrorisme international, a souligné le colonel Warren. Le département d'État et les Nations Unies avaient désigné Al-Khazi comme terroriste plus tôt cette année. Le militant aurait rejoint Ansar al-Sharia en Tunisie en 2011 et il avait aidé par la suite à recruter des combattants. Il aurait aidé ces derniers à s'infiltrer en Tunisie et en Syrie tout en introduisant des armes en contrebande en Tunisie.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Une commission d'enquête de l'ONU a peint ce mardi un sombre tableau de la situation en Syrie, 4 ans après le début de la contestation contre le régime de Bachar al-Assad. Dans ce rapport, tous les protagonistes de la crise sont critiqués pour avoir imposé à plusieurs villes des sièges aux effets dévastateurs. Lionel Gaïman nous en dit plus.
Paolo Pignero, responsable de la commission d'enquête sur la Syrie, a déclaré devant le Conseil des droits humains de l'ONU à Genève que très peu d'efforts ont été déployés par les parties en conflit. Le gouvernement, les combattants rebelles et les djihadistes du groupe État islamique pour respecter les prescrits du droit international. Des attaques sont menées de manière délibérée et indiscriminée contre les régions habitées par les civils. Il en résulte un degré de traumatisme qu'on ne peut pas sous-estimer, a-t-il fait remarquer. Les sièges et le déni prolongé d'accès à l'aide humanitaire ont conduit à la malnutrition et à la famine, a ajouté M. Pignero. Le rapport de l'ONU dénonce par ailleurs l'incapacité de la communauté internationale à forger une solution à ce conflit qui, en 4 ans, a causé la mort de plus de 220 000 personnes, la relocation de plus de 4 millions à l'intérieur de la Syrie et l'immigration forcée d'environ 7 millions et demi d'autres vers les pays voisins. En outre, estime le HCR, plus de 12 millions de personnes ont maintenant besoin d'aide en Syrie à cause de la violence. Damas rejette le rapport et accuse la commission de partialité.
Et toujours en Syrie, les combattants kurdes et leurs alliés ont repris la ville d'Ain Issa, auparavant occupée par le groupe État islamique. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les djihadistes ont effectué un retrait total, ce qui place désormais les Peshmerga, environ 50 km de la ville de Raqqa, que l'État islamique considère comme la capitale de son soi-disant califat en Syrie et en Irak. Plus tôt cette année, les Kurdes avaient reconquis la ville stratégique de Kobané, limitrophe de la Turquie, avec l'appui de la coalition internationale. Et les États-Unis comptent employer des moyens militaires et non militaires pour contrer l'agression de la Russie en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire américain à la défense Ashton Carter. Le patron du Pentagone s'exprimait lors d'une escale à Berlin en route pour l'Estonie où il doit rencontrer ses homologues des pays baltes. Ashton Carter a annoncé la participation éventuelle des forces spéciales américaines, d'agents de renseignement et autres ressources militaires à une nouvelle force de réaction rapide mise sur pied par l'OTAN pour aider l'Europe à repousser toute agression de Moscou. Une réunion avec les ministres de la Défense et l'Alliance Atlantique est aussi prévue jeudi à Bruxelles. Dossier nucléaire iranien, le compte à rebours a commencé pour la signature d'un accord définitif. Téhéran et les puissances mondiales se sont fixés la date du 30 juin pour parvenir à cet accord qui fait suite à une entente politique conclue conclu plus tôt cette année. Un marathon diplomatique est donc lancé. Après 20 mois d'intenses discussions, les parties veulent maintenant assurer dans le long terme le caractère pacifique du programme nucléaire de l'Iran et la levée des sanctions. Voilà pour ce bulletin d'information. Et tout de suite, vous retrouvez Khalil Gueye qui vous propose Carrefour Science et Santé. Au micro, c'était Morgane Gariec.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.